Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous, c'est Mondial Sport, première séance du week-end avec d'abord l'hommage au maître du tennis, Roger Federer. Son élégance, ses coups de génie qu'on ne reverra plus après le week-end prochain. La légende aux 20 sacres en grand chelem prend sa retraite à 41 ans et donne du vague à l'âme à tous les amoureux du beau jeu. Les hommages aux champions ont été nombreux. Vous entendrez celui du Marocain Younes El Aïnaoui qui a joué contre le Suisse au début des années 2000. Beaucoup de football ensuite, le point sur le tour préliminaire retour des Coupes d'Afrique de clubs avec un gros plan sur les Sénégalais de Casa Sport. En Europe, c'est le Sporting Portugal qui séduit sur la scène continentale. Un peu plus qu'en championnat, vous aurez quelques explications sur cette réussite. Ne cherchez plus la révélation africaine de ce début de saison en Ligue 1. Dango Ouattara fait le bonheur de Lorient. L'occasion de faire un retour aux sources au Burkina Faso, où on en fait déjà un élément incontournable de l'avenir des étalons. Enfin, le championnat espagnol féminin se professionnalise à son tour. La Liga EFE a démarré ce week-end avec un temps de retard, les arbitres ayant demandé à être un peu mieux considérés financièrement. Sale temps décidément pour les amoureux du tennis, du beau jeu et des exploits hors normes en 15 jours. C'est un quart de siècle de ce sport, peut-être le plus beau de son histoire, qui s'efface peu à peu. Le temps a fait son œuvre. Comme Serena Williams à l'US Open, Roger Federer s'est rendu à l'évidence après plus d'un an d'absence à tenter de soigner son genou pour revenir. C'est fini. Enfin presque, les spectateurs de l'O2 Arena de Londres seront les derniers à le voir jouer le week-end prochain à l'occasion de la Lever Cup, un tournoi semi-exhibition entre équipes nationales que le Suisse a lui-même créé en 2017. Trois jours d'adieu à une légende aux 20 sacres en grand chelem, numéro 1 mondial pendant 310 semaines entre 2004 et 2018. Mais surtout à un joueur à la classe et à la palette de coups incomparables. Depuis l'annonce de sa retraite, les hommages du monde du tennis sont innombrables. En voici un d'un adversaire qui a affronté Federer à ses débuts, le Marocain Younes El Aïnaoui, ancien 14e mondial. Eric Mamouth l'a joint pour lui demander son sentiment sur cette fin de carrière.
C'est une page de l'histoire du tennis qui se tourne. Les joueurs, les adeptes, les perfectionnistes avaient tous vu en Roger quelque chose de magnifique, mais je pense que le grand public aussi s'est aperçu avec la facilité avec laquelle il a réussi à remporter autant de tournois. Aujourd'hui, où le tennis, on voit des joueurs de plus en plus physiques, où on voit qu'il y a une dépense d'énergie énorme à chaque coup, je crois que lui faisait en tout cas... Quand on était de l'extérieur, et moi je l'ai affronté quelques fois aussi, c'est la facilité avec laquelle il pouvait faire avancer la balle. Le moment où il prenait la balle, tout ça faisait que voilà, il réussissait à, sans vraiment se fatiguer, entre guillemets, à pouvoir produire un tennis fantastique.
Et il a fait évoluer son jeu tout au long de sa carrière, qui aura duré plus de 20 ans.
Tout à fait. Moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je l'ai affronté la première fois. Il avait une wild card au tournoi de Gstaad. Il était tout jeune champion du monde. Ça devait être un an après. Il devait avoir 19 ans.
C'était en 1999.
Exactement, et je l'ai battu assez facilement en 2-7. Et à partir de là, je crois que physiquement, déjà, il a pris quelques kilos de muscles. Donc, son physique est devenu vraiment le physique parfait pour le joueur de tennis. Ni trop grand, ni trop petit. Il était endurant, rapide. Et puis, son jeu vers l'avant, l'attaque, je crois qu'il y a beaucoup de monde tout au long de sa carrière. Carter, bien sûr, son coach australien, qui l'a vraiment aidé dans ce domaine du jeu. Ensuite, Lundgren, puis Paul Anacon, et puis sur la fin, Ljubicic. Donc tous ces coachs aussi, à chaque fois, ont rajouté un petit plus. Et ce qui est quand même fou, quoi, qu'il était numéro un, Roger Federer, déjà tenant de beaucoup de tournois. Il continuait à aller vers de nouveaux entraîneurs pour essayer de progresser vraiment jusqu'à la fin de sa carrière.
Quand est-ce que vous avez senti qu'effectivement, ce joueur-là serait, peut-être pas encore une légende, mais un énorme champion?
C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Déjà, il y avait une fluidité dans les coups, avec ce magnifique revers à deux mains, des prises presque continentales comme on avait l'habitude de voir dans les années 70, un Ili Nastase ou un Tony Roche, des joueurs vraiment avec un tennis très simple et à la fois très efficace, sans trop d'effets. Donc il y avait des bases. Après, c'est vrai qu'il a eu ses bêtes noires. Il y a des joueurs comme Nalbandian qui n'étaient pas du tout impressionnés par Federer, mais par contre, il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout à Wimbledon, je crois que son jeu était vraiment fait pour cette surface, avec un service très fluide, souvent des services volés, un revers slicé. Vraiment, il maîtrisait tous les coups. En fait, c'était ça la difficulté quand on l'avait en face. C'était qu'est-ce qu'on peut faire pour le gêner, le faire courir. Ça va pas avancer à grand chose. Jouer plus vite que lui, c'est difficile. Donc, ouais, vraiment, il y a beaucoup de joueurs en fait qui l'admiraient même pendant la carrière, et c'était difficile de jouer devant quelqu'un qu'on admire, bien sûr.
Est-ce que Roger Federer a fait rentrer le tennis dans une autre dimension avec ensuite Nadal et Djoko?
Ben, c'est vrai qu'on a vécu un air vraiment unique, puisque ça s'était jamais produit dans le tennis professionnel, que trois joueurs gagnent autant de tournois. Et je crois que ça lui a fait du bien à Roger d'avoir une telle concurrence. Ça l'a fait se remettre en question et ne pas être vraiment installé en haut du trône sans être titillé. Donc pratiquement les 10-15 dernières années, il y avait une concurrence très rude. Et voilà, il a montré qu'il était humain par moments. Il a flanché avec des balles de match. À d'autres moments, il n'a pas tremblé. Mais en tout cas, c'était toujours très agréable à suivre.
Avec ce Big 3, qui était avant Big 4 avec Andy Murray, vous pensez qu'on a vécu l'âge d'or du tennis, même si les époques sont difficiles à comparer?
C'est vrai que c'était vraiment une époque fabuleuse avec ces quatre joueurs. À eux deux, ils ont presque gagné tous les tournois du Grand Chelem pendant 20 ans, mis à part 4 ou 5 éditions. Mais j'ai l'impression qu'avec l'US Open qu'on vient de vivre et de voir des joueurs comme Alcaraz, comme Sinner, la relève est entre de bonnes mains. Bien sûr, on sera toujours nostalgique. Les plus âgés vous parleront de Borg et de McEnroe qui n'a jamais été égalé. Ben nous, c'est sûr qu'on a vécu sous l'ère de Federer, Murray, Djokovic et Nadal. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs qui arrivent et le niveau de jeu, en tout cas, n'aura rien à envier à celui qui a été pratiqué par nos quatre mousquetaires. Ça restera de très bons souvenirs et on aura toujours les replays pour se remettre des matchs de Roger.
Younes El Aynaoui, ancien adversaire de Federer, qui a contribué plus que quiconque à la popularité du tennis et sans doute suscité énormément de vocations, y compris bien sûr en Suisse. Même si là-bas aussi, les années passent et les idoles changent. Reportage dans le club de Verrier, Grand Ozel, c'est dans la banlieue de Genève, avec Jérémy Lanche.
Aller dans un club de tennis en Suisse et demander ce que les joueurs pensent de Roger Federer, c'est s'exposer à un concert de louanges. Marité et Nathalie ne dérogent pas à la règle.
C'est bien qu'il arrête maintenant, comme ça il a fait toute sa carrière magnifique, sera de toute façon un champion pour toujours.
J'adorais ce joueur, donc tellement humble, tellement génial à regarder. Donc il a un jeu tellement extraordinaire. Je veux dire, et puis il est tellement sympa, il va nous manquer, mais c'est vrai qu'il a bien raison d'arrêter maintenant. C'est sûr qu'il va rester dans nos cœurs, mais je crois que même en étant, si on n'est pas suisse, je crois qu'il est apprécié partout. Hein.
Même réaction chez les entraîneurs, Jonathan Ottomano est ce qu'on appelle un fan, un vrai, de Federer.
Moi, je l'ai vu jouer à l'Open d'Australie il y a 7 ans, et je l'ai vu aussi en Coupe Davis ici en Suisse, à Genève. Moi, j'étais triste, hein. C'est sûr qu'une légende aussi longtemps dans un aussi petit pays comme la Suisse et avoir eu l'occasion de le voir pendant plus de 20 ans. J'espérais qu'il continue encore une année, en tout cas faire un ou deux grands chelems.
Jonathan sait ce qu'il doit à Roger Federer en termes d'émotion. Il sait aussi que s'il a entraîné autant d'enfants ces dernières années, c'est sans doute grâce à la légende nationale.
Ah oui, complètement. Hein. Ils viennent, pas tous les enfants, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui viennent justement pour ça, quoi. Pour Federer, Nadal, la rivalité qu'il y a eu entre les deux. Et puis ouais, c'est une triste nouvelle pour le tennis suisse.
Autre prof de tennis, autre avis, Didier Roux pense que Federer a fait le bon choix.
C'est normal qu'il prenne sa retraite, il a 41 ans. C'est très bien qu'il ne prolonge pas. Je trouve dommage qu'il perde contre des gars qu'il n'aurait pas perdu, et il faut admettre à un moment que voilà, c'est fini, quoi. Sinon, il va faire comme Villa, ça n'a aucun sens.
Les exploits de Federer qui amènent des licenciés dans les clubs, c'est d'ailleurs de la vieille histoire, dit Didier Roux. Que ce soit Djokovic, Nadal ou la jeune garde comme Tsitsipas et Alcaraz, les jeunes générations ont maintenant d'autres références en tête.
Ça, c'est déjà passé. Ça va tellement vite. Demandez qui est McEnroe et Borg à mes élèves. Là, ils ont 8 ans. Pas sûr qu'ils sachent qui c'est.
Et Federer, ils sauront pas qui c'est non plus?
Ah, je pense que dans 5-7 ans, il y aura beaucoup moins de gens qui le connaissent.
Et c'est vrai qu'étonnamment, les jeunes joueurs du club sont assez peu nombreux à connaître Roger Federer. En tout cas, ceux qui ont moins de 8 ans. Luigi est peut-être l'exception. Lui ne savait pas que son idole avait arrêté quand on l'a interrogé. Et à entendre son émotion, on regrette presque de le lui avoir appris.
J'étais pas au courant et... C'est triste, parce qu'il a une incroyable carrière.
Il m'a donné envie de jouer au tennis. Ouais.
Installé sur un banc en face des cours de tennis, Achille attend patiemment la fin de la leçon de tennis de son fils. Lui fait partie des Suisses qui vont regretter Roger Federer, même si ce n'est pas le seul tennisman qu'il admire.
Ça fait quelque chose parce que c'est quand même un des meilleurs au monde. Hein, donc avoir gagné autant de grands chelems comme lui, il faut le faire. Quoi.
Vous pouvez me redonner le prénom de votre fils ?
Il s'appelle Noah. C'est un peu la raison, c'est plutôt Yannick Noah. Voilà.
Et le petit frère s'appellera Roger ou pas ?
Le petit frère, il est déjà né. Donc, par contre, il s'appelle Théo. Je ne sais pas, il n'y a pas un joueur de tennis qui s'appelle Théo. Quoi.
Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Oui, Roger Federer aura sans doute pris un malin plaisir à attirer sa révérence en pleine Coupe Davis, comme pour mieux détourner l'attention d'une compétition qu'il n'a gagnée qu'une seule fois en 2014 et retomber aujourd'hui dans un relatif anonymat depuis sa réforme en 2019. L'édition 2009, sachez-le, a lieu en ce moment dans quatre villes différentes et l'équipe de France, basée à Hambourg, a été éliminée avant même la fin de la phase de groupe. Le football à présent, c'est le tour préliminaire au retour des Coupes d'Afrique de clubs qui nous intéresse tout d'abord. Quelques résultats en Ligue des Champions, l'élimination 2-1 des Malgaches de CFFA par les Royal Leopards d'Iswatini, qui l'avaient déjà emporté 3-2 à l'aller. Les Togolais d'Asco de Kara se qualifient, eux, aux dépens des Mauritaniens de Ouadibou 1-0, un partout lors de la première manche. Pas de miracle, en revanche, pour l'Olympique de Bangui, une nouvelle fois battu par les Ougandais de Vipers 1-0. Le club centrafricain avait déjà encaissé un 4-0 le week-end dernier. À Brazzaville, puisque le stade de Bangui n'est pas homologué par la CAF et pour cause, il est dans un sale état, ce qui désole les supporters. Reportage Rolf-Steve Demiel.
Nous sommes dans le vestiaire numéro 5 du complexe sportif Barthélémy Boganda, transformé en salle de musculation. La musique permet de motiver les athlètes. Inauguré en 2006, le stade est aujourd'hui dans une phase de dégradation avancée. Certains compartiments sont transformés en bureaux, en buvettes ou en gargotes louées par des particuliers. Ici, on monte dans les gradins, le décor est désolant. Des toiles d'araignées, des tas d'ordures sont visibles par endroits et cette odeur d'urine qui conditionne l'air. Certaines parois sont fissurées, la piste d'athlétisme est complètement détériorée. Kizer Maïdou est un ancien footballeur.
Normalement, c'est une infrastructure gérée par l'État, quitte à l'État centrafricain, de bien veiller sur... C'est un aire de jeu qui devait être protégé. Vous voyez, les bars, les snacks, les restaurants, les boutiques sont tout autour. Même les vestiaires sont aujourd'hui utilisés comme bureaux.
Ce joyau a été sanctionné après une mission d'expertise de la CAF à Bangui en 2019. Depuis 3 ans, les équipes centrafricaines disputent des matchs à l'extérieur, ce qui joue en leur défaveur, selon Alfred Anaïm, président de l'association des supporters centrafricains.
Notre capitaine Kondogbia refuse de revenir dans l'équipe nationale à cause de notre stade. Nous voulons maintenant la réhabilitation plus tôt possible de notre stade. Nous, les supporters, nous sommes aux aguets pour la victoire de nos fauves. Nous sommes capables de pousser nos fauves à la victoire. Vous avez vu, on a joué contre l'Égypte ici, on a joué contre l'Algérie ici. Vous avez vu comment les supporters centrafricains sont mobilisés pour la victoire. Nous, les supporters centrafricains, nous sommes prêts pour pousser nos fauves pour la qualification de la Coupe d'Afrique, pour la qualification de la Coupe du Monde.
Alors que les amoureux du ballon rond se plaignent, l'UNASPOR, l'organe en charge de la gestion du complexe sportif Barthélémy Boganda, a reconstruit les vestiaires et l'aire de jeu est remise à nouveau par la fédération. Il reste encore quelques défis selon Hervé Sévérelli Damon, directeur général de l'UNASPOR.
Le grand défi qui reste à nous, c'est qu'il nous faut mettre de tunnels à la sortie qui devrait protéger les joueurs et les arbitres, les commissaires de match. Donc ça, là, nous ne disposons pas ici au stade 20 000 places. Et en plus de cela, augmenter la capacité de lumière pour jouer les matchs nocturnes. Et aussi, il faut mettre 20 000 chaises dans le stade en général pour offrir l'opportunité au public qui vient de s'asseoir convenablement.
Conscient de cette situation, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aristide Brion-Reboise, compte accélérer le processus.
Nous avons déjà commencé avec les maigres budgets aussi de l'UNASPOR. Il y a eu des efforts. La fédération de foot aussi a remis en état les pelouses, les vestiaires. Nous avons déjà démarré, mais je pense que ça va s'amplifier. Dans la réflexion des infrastructures, j'ai eu déjà 2 ou 3 partenaires qui ont proposé de l'argent, etc. Mais il faut décrire le cadre, qu'il y ait une transparence au niveau de la collecte et de la gestion. Et l'État aussi va nous accompagner.
En attendant, la Fédération centrafricaine de football, qui n'a pas son propre stade, continue de planifier les matchs des équipes centrafricaines à l'extérieur. Rolf Esther Bdomialeux, Bangui, RFI.
Et Bangui qui laisse donc Vipers aller au deuxième tour préliminaire aller de cette Ligue des Champions. Vipers qui affrontera le tout puissant Mazembe lors de ce second tour. Suite du programme de ce tour préliminaire, retour demain avec notamment le déplacement des Sénégalais de Casaspor sur le terrain des Algériens de la JSK avec l'avantage du 1-0 obtenu à l'aller par le club de Ziguinchor, la formation la plus en vue par ses résultats. Un doublé Coupe Championnat la saison passée, conséquence entre autres d'une politique largement portée sur la formation. À Dakar, Babacar Fall.
Dans les rues de Ziguinchor, les supporters du Casaspor sont contents des performances de leur club.
L'équipe du Casaspor garde cette authenticité, ce football qu'on le connaît, un football alléchant avec un pressing et avec également un pragmatisme et un réalisme devant les buts.
Une équipe du Casaspor très, 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 très motivée, très bon. Ce même groupe a fait le doublé Coupe Championnat pour la saison 2021-2022.
C'est une surprise pour d'autres, pour nous connaisseurs des réalités du Casaspor. Nous ne sommes pas surpris de ses performances.
Abdou Karim Diatta, le patron de Ale Casa, l'association des supporters du Casaspor.
Nous partageons tous, de quelles origines que nous soyons, ce sentiment de fierté et d'appartenance à la Casamance.
Et quelles sont les recettes de cette réussite du Casa, le secrétaire général du club Siaka Bodjan?
C'est d'abord une option que nous avons prise résolument au bout de quelques années d'errement. Nous avons à chaque fois privilégié la gestion des campagnes. Ça ne nous a pas réussi, nous n'avons pas eu de résultats probants. C'est ainsi que nous avons décidé depuis 2019-2020. Depuis lors, nous avons travaillé dans la constance. Nous avons pris le temps de repartir de zéro avec l'effectif, en privilégiant d'abord les jeunes du club, qui sont très pertinents, qui faisaient des résultats à chaque fois, soit en cadet, soit en junior. Et nous avons travaillé à mettre en place une équipe compétitive sur 2 ans.
Et au cœur de ce renouveau, il y a aussi un homme, Ansou Diadjou, l'entraîneur du club. Le journaliste Chertidian Ndiaye, il a suivi le Casaspor pendant près d'une dizaine d'années lorsqu'il était le correspondant de l'agence de presse sénégalaise à Ziguinchor.
Ansou Diadjou a bourlingué dans les petites catégories du club lorsqu'il a été promu en équipe A. Ansou Diadjou a misé sur des jeunes dont il était le coach dans un palier inférieur. Il a aussi fait dans la continuité en comptant sur des cadres comme Pierre-Benoît Manga et Alioune Diatta. Et surtout en misant sur la formation locale, parce que l'ossature de l'équipe est composée actuellement de jeunes issus de la localité de Ziguinchor et environ.
Le Casaspor qui peut aussi compter sur son champion d'Afrique, Alioune Badara Fati, 4e gardien des Lions à la dernière CAN. Et le rêve aujourd'hui de tout le club et de toute la région de Ziguinchor, c'est la qualification à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais il faudra d'abord passer l'étape JSK. Babacar Fall, Dakar. RFI.
Et ce sera un match à suivre demain à partir de 18h, temps universel. En Europe, 8e journée de Première Ligue. Programmation réduite, faute de policiers disponibles, vous le savez, pour la sécurité dans les stades. Ils ont été mobilisés pour les cérémonies en hommage à la reine Elisabeth II. Manchester City est allé gagner 3-0 à Wolverhampton et se retrouve co-leader avec Tottenham, qui a écrasé la lanterne rouge Leicester 6-2. On en parlera plus précisément demain avec Philippe Auclair. La 6e journée de Liga en Espagne, le Barça a dominé Elche 3-0 avec notamment un doublé de Robert Lewandowski. Première défaite de la saison de Bundesliga du Bayern Munich, 1-0 à Augsbourg. Et puis un détour par le Portugal ce soir pour s'intéresser au cas du Sporting. Si le champion 2021 fait un début de saison mitigé sur le plan national, il s'est d'ailleurs incliné ce soir à Boavista 2-1. Il marche plutôt fort en Ligue des Champions, 2 victoires en 2 matchs contre Francfort et Tottenham. Ça ne va pas réconforter son prochain adversaire début octobre, Marseille, déjà mal en point. Mais ça valait le coup d'aller voir des fans et des spécialistes du club de Lisbonne pour les sonder sur la réussite sur la scène européenne de leur club actuellement. C'est ce qu'a fait notre correspondant Vincent Barros.
Depuis quelques jours, Ricardo Villaverde a le sourire. Le patron de la Tashkinia do Lagarto, restaurant emblématique des supporters du Sporting à Lisbonne, savoure le parcours de son club de cœur sur la scène européenne après un début de championnat, il faut bien le dire, décevant. L'entraîneur, pour lui, est l'artisan de ce renouveau.
Ruben Amorim, pour moi, c'est la clé du succès, pour sa compétence, son leadership. C'est un leader né, un communicant né. Cette saison, l'équipe a perdu des joueurs essentiels, mais elle reste malgré tout compétitive.
L'équipe continue à répondre de façon compétitive.
Parmi ces joueurs, citons le milieu récupérateur Juan Palinha, parti à Fulham, le milieu offensif Matheus Nunes, vendu à Wolverhampton, ou encore Pablo Sarabia, revenu au PSG. Mais d'autres joueurs, depuis, explosent, à l'instar de Marcus Edwards, attaquant anglais de 23 ans, formé à Tottenham, une pépite selon Ricardo.
C'est la grande révélation du moment. Un joueur imprévisible quand il dribble l'adversaire, quand il feinte. Mais c'est justement la colonne vertébrale de l'équipe, sa solidité, sa stabilité qui permet à des joueurs comme Edwards d'éclore. Et je suis sûr que d'autres vont se révéler au cours de la saison.
L'expérimenté gardien espagnol Antonio Adán, 35 ans, est le pilier de cette colonne vertébrale. Décisif face à Tottenham, l'Espagnol figure d'ailleurs cette semaine dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Devant lui, le capitaine uruguayen Sebastián Coates pilote toujours la défense. L'attaque, enfin, repose sur Pedro Gonçalves, meilleur buteur du championnat portugais l'année du titre en 2021, mais aussi Paulinho, auteur du premier but mardi face aux Spurs. Pour Manuel Fernandes, ancienne gloire du Sporting dans les années 70 et 80, la force de l'équipe actuelle est sa sérénité.
Son équilibre émotionnel jamais ne se perturbe, même quand l'adversaire prend l'ascendant. L'équipe garde la tête froide parce qu'elle a un bon commandant avec Coates.
Lui-même ancien entraîneur, Manuel Fernandes salue surtout lui aussi le leadership de Ruben Amorim.
Quand j'étais joueur, j'ai eu des coachs qui étaient excellents à l'entraînement, d'autres tactiquement, d'autres encore étaient super dans le management. Ruben Amorim a un peu de tout cela. Pas un peu d'ailleurs, il a beaucoup de toutes ses qualités. Il dépasse toutes les attentes des supporters et réalise un excellent travail.
Son futur adversaire en Coupe d'Europe le 4 octobre prochain, l'Olympique de Marseille est prévenu. Le Sporting est désormais en ordre de marche. Vincent Barros, Lisbonne RFI.
On n'oublie pas la Ligue 1 avec deux matchs aujourd'hui dans le cadre de la 8e journée. Montpellier a battu Strasbourg 2-1. Lille l'a emporté à domicile sur Toulouse sur le même score avec un but décisif de l'Algérien Adam Ounas. Et puis hier, on a eu la confirmation que Lorient était bien la belle surprise de ces premières semaines. Les Merlus, 3e du classement, après leur victoire 3-1 à Auxerre, avec une ouverture du score de Dango Ouattara, la révélation burkinabé. Déjà 4 buts inscrits pour le jeune attaquant de 20 ans, portant de grands espoirs pour les étalons Ouagadougou, Gabriel Barrois.
Les Burkinabés ne se posent pas trop de questions. Ils sont convaincus d'avoir trouvé, avec les bons débuts de Dango Ouattara en Ligue 1, le type de leader qui sied à l'attaque des étalons. Les propos du secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel de la FBF traduisent bien ce sentiment. Ouest Julien Tiendre-Béougou.
Il est déjà un leader parce que ce qu'il a apporté en si peu de temps à notre sélection est déjà énorme. Il nous renvoie le miroir que vraiment notre football est sur de bons chemins.
L'international burkinabé, auteur de 4 buts et de 4 passes décisives en 8 matchs avec le FC Lorient, confirme son efficacité en attaque. Il est suivi de près par le sélectionneur national des étalons, Hubert Vélude.
J'ai vu tous ses matchs et c'est vrai qu'il est dans une phase ascendante assez terrible. Il ne faut pas s'enflammer, il faut que mentalement il continue comme ça. C'est un joueur que j'ai côtoyé moi le premier regroupement, qui est très sérieux, très professionnel, très travailleur aussi. Donc il a l'avenir devant lui, c'est un jeune joueur. C'est notre intérêt que Dango explose, qu'on ait des joueurs de haut niveau comme ça. Pour l'équipe nationale du Burkina Faso, c'est très important. Ça va hausser le niveau de l'équipe.
Formé au centre Kadasco, l'international et à l'Académie Foot Plus de Ouagadougou entre 2016 et 2019, Dango Ouattara se distingue par son jeu direct à la fois technique et physique. Il ne l'a pas usurpé, nous confie Ousmane Compaoré-Lato, l'ex-directeur technique de l'Académie Foot Plus.
Dango est le fils d'un ancien joueur, Sogo Ouattara, qui est de Bobo, qui est de Sarafalao, qui a joué un peu au Racing. Donc il a hérité un peu cette force athlétique-là de son papa, mais aussi il a pu affiner sa technique, qui fait de lui aujourd'hui un joueur prêt pour le haut niveau.
Attiré par le profil du joueur de 20 ans, Kamou Malo, qui n'avait pas hésité à le sélectionner pour la CAN 2021, l'avait du même coup révélé au grand public.
Je dois dire plutôt que c'est nous qui avons eu la chance de le découvrir en son temps, parce qu'il a été un élément catalyseur quant à notre qualification face à la Tunisie. Il a confirmé tout le bien qu'on pensait et tout l'espoir qu'on avait placé en lui. En tout cas, je pense que c'est un garçon avec lequel il va falloir compter pour le futur, en tout cas, du football burkinabé.
Zié Eric Ouattara, qui a encadré le joueur tout au long de sa formation, est également convaincu que Dango Ouattara, épargné des blessures, ne peut que tutoyer le haut niveau.
Si vous le regardez jouer, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Le talent est là. Il a encore une très grande marge de progression. Moi, je parie qu'il va aller plus haut. Déjà qu'il a touché le niveau professionnel. S'il est épargné des blessures, connaissant ses qualités, le Burkina aura l'un des meilleurs footballeurs africains.
Dango Ouattara fait partie de la liste des 25 d'Hubert Velud qui devront affronter la RDC et les Comores en amical les 23 et 27 septembre prochains au Maroc. Gabriel Barrois, Ouagadougou, RFI.
Ça y est, l'Espagne a enfin son championnat de foot professionnel. La Liga EFE a démarré aujourd'hui après avoir trouvé les ressources financières suffisantes pour être viable. Avec tout de même un point faible, la rémunération des arbitres, si faible l'an passé qu'elles ont retardé le coup d'envoi de cette nouvelle ère, initialement prévue le week-end dernier, en faisant grève. Pierre Chapon à Madrid.
Drôle d'image pour une reprise quand la semaine dernière, sur les coups de midi moins 5, dans le petit stade du centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid, l'antre du club colchonero, version féminine, les joueuses locales et leurs adversaires de la Real Sociedad sortent du tunnel, des vestiaires, saluent le public. Problème, pas d'arbitre. Une grève du sifflet. La raison, alors que le championnat féminin est devenu professionnel, les femmes en noir ont été laissées de côté. Comprenez ? Pas de revalorisation salariale. Résultat, première journée suspendue, une image détériorée. Après 5 jours de négociations et un compromis de trouver entre les arbitres, le Conseil supérieur du sport, équivalent du ministère des Sports, et la Fédération de football, à la grande joie de Luis Rubiales, son président.
C'est un accord historique, pionnier. Il a fallu ajouter un peu d'argent, donner un coup de pouce. Il a fallu montrer sa générosité, sa solidarité. Je crois qu'avec cet accord, nous avons réussi avec le Conseil supérieur du sport, une avancée historique pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour que les arbitres aient un salaire très très digne. Et je suis heureux que ça soit adopté à l'unanimité.
1 666 € pour l'arbitre central, 1 066 € pour ses assistantes, contre 300 et 166 € l'année passée. Si on est encore loin des budgets du foot masculin, le corps arbitral semblait satisfait, comme l'expliquait Marta Frias, arbitre interrogé par le canal YouTube de la Fédération de football espagnole.
Mon WhatsApp est rempli de messages parce que nous sommes extrêmement contentes. Et à partir de maintenant, nous allons continuer de grandir. Après autant de tensions, nous avons tous réussi à trouver un accord qui, je pense, fait de nous des personnes super privilégiées. Et nous sommes super fiers d'appartenir à ce collectif.
Il faut dire que la professionnalisation du football féminin espagnol a aiguisé les appétits. Lancé en grande pompe début septembre dans une célèbre salle de spectacle du centre de Madrid, la Liga EFE, comme on l'appelle, inaugure une nouvelle ère. Création sur le modèle masculin d'une entreprise pour commercialiser le championnat. La Liga de Javier Tebas va d'ailleurs aider ses consoeurs dans ce sens. Le gouvernement a apporté 23 millions d'euros pour notamment améliorer les infrastructures des clubs. Enfin, la télé donne le coup de pouce nécessaire si on est encore loin des 9,4 millions d'euros du championnat d'Angleterre. L'Espagne n'a pas forcément à rougir. 35 millions sur 5 ans payés par la plateforme britannique DAZN pour tous les matchs et 1 million de la part de Mediapro pour retransmettre une rencontre en clair chaque journée. Pour la présidente de cette Liga EFE, Beatriz Alvarez Mesa, interrogée ces derniers jours par le quotidien catalan Mundo Deportivo, ce championnat a tous les arguments pour devenir le meilleur du monde.
Il est certain que nous sommes en train de faire un pas en avant et qu'il y a encore beaucoup à faire pour grandir. Il est évident qu'on se base sur les championnats d'Angleterre et des États-Unis qui sont les plus importants. Mais moi, je crois qu'avec le pari que l'Espagne a fait à tous les niveaux, avec un club qui est une référence, avec une joueuse qui est la meilleure du monde, cela va nous permettre d'être une référence mondiale.
Tous ces changements feraient presque oublier le sportif. 16 équipes au départ, dont les vice-championnes d'Europe, le FC Barcelone, qui avait réussi l'exploit de signer l'an passé 30 victoires en autant de rencontres. Reste à savoir si tous réussiront maintenant le virage professionnel. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et c'est déjà l'heure pour Mondial Sport de rentrer au vestiaire. Un grand merci à Raphaël Belon et Jean-Philippe Thurie pour la réalisation. Comme d'habitude, séance de rattrapage possible à la rubrique podcast sur RFI.fr ou via l'appli RFI Pure Radio. À demain, bonne soirée.